Radio Cathy, Grand Témoin.
Ancien ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, ancien gouverneur des provinces de Kinshasa et Bas-Congo, candidat président de la République aux élections de 2006, Timothée Moleka-Nzulama est aujourd'hui l'invité de Grand Témoin. Timothée Moleka-Nzulama est le bienvenu.
Merci.
Comment allez-vous?
Ça va.
En dehors des responsabilités politiques que vous avez occupées, vous avez aussi dirigé plusieurs entreprises privées et publiques. Aussi, le mois de mars est consacré à la femme. Nous nous intéresserons à leur situation au cours de cet entretien. Parlons d'abord de votre enfance. Le 6 novembre 1951, vous voyez le jour ici à Kinshasa, à l'hôpital général actuel, hôpital Mamayemo. Vous êtes marié et père d'une famille nombreuse. Parlez-nous de votre enfance.
Bien, mon enfance s'est fort bien passée avec des parents qui aimaient beaucoup leurs enfants, notamment leur premier fils. Et bon, tout s'est très bien passé. Je me souviens notamment pendant que j'allais à l'école gardienne, à l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Bandal, nous avions l'habitude de faire des prières tous les samedis, n'est-ce pas, devant la statue de Jésus-Christ. Et un jour, un samedi, on faisait la prière, et échappant un peu à la prière collective, j'ai adressé une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai fermé les yeux, je lui ai demandé quelque chose. Je lui ai dit, Seigneur, quand j'ouvre les yeux, je dois voir ce que j'ai demandé. J'ai ouvert les yeux, je n'ai rien vu. Rien du tout. Mais j'avais une forte conviction que le Seigneur m'avait déjà accordé ce que je lui ai demandé. Et par la grâce de Dieu, je me suis rendu compte, quand j'avais l'âge adulte, il m'a accordé effectivement ce que j'avais demandé ce jour-là.
Si ce n'est pas un secret, on peut le savoir.
J'avais demandé une voiture.
Oh, c'est un des meilleurs souvenirs qui a marqué votre enfance.
Oui, en fait. Oui, c'est un des meilleurs souvenirs parce que maintenant que je vis un peu plus avec le Seigneur, je mesure combien il peut répondre, n'est-ce pas, à une demande, bien que tu ne vois pas encore la réponse, mais la réponse existe déjà.
Moleka Nzulama, que signifie votre nom?
Bien, le nom Moleka, c'est le nom de famille, c'est le nom de mon père. Moleka veut dire décision. Alors Nzulama, c'est mon nom, je l'ai hérité de mon grand-père paternel. Nzulama veut dire qu'un fils qui est né et pour qui tout ce qui est autour de lui appartient. Ça veut dire tout ce qui est bien, ça lui appartient, mais tous les problèmes aussi qui gravitent autour de lui, lui appartient, ce sont ses problèmes de l'héritier.
C'est en fait l'héritier.
Ok.
Les études primaires, vous les commencez à l'Athénée de Kalina, l'actuelle Athénée de la Gombe. Vous les poursuivez à l'école Saint-Victor à Liège, en Belgique. Ensuite, c'est le collège Saint-Louis, toujours à Liège, où vous terminez vos humanités en moderne scientifique A, l'équivalent de la maths physique.
Tout à fait.
Qu'en est-il de vos études universitaires?
Oui, après Saint-Louis, je suis allé à l'Institut Grammes pour faire les études d'ingénieur industriel, donc...
Et vous vous destinez à quel métier en choisissant cette option?
En fait, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était l'électricité et l'électronique. Alors, comme l'Institut Grammes est une école polytechnique, donc polyvalente, dans laquelle toutes les techniques sont matières, bon, disons que j'étais comme un poisson dans l'eau.
Rappelez-nous quelques noms d'amis d'enfance que vous avez encore à l'esprit.
Ah, bon, j'avais un ami, il est décédé malheureusement. Nous nous sommes retrouvés plus tard pour faire une carrière de dirigeant de football, c'était Ado Makola. C'était vraiment un ami d'enfance. Nous avons mangé ensemble, on a dormi ensemble, on a fait quelques travaux ménagers ensemble. C'est vraiment un ami, je sais que beaucoup de gens ne savent pas. J'ai connu aussi dans le quartier Kassavubu, où j'habitais à l'époque Bougui. Je pense que lui, il est encore vivant aujourd'hui, il doit encore habiter Kassavubu. Bon, les autres sont un peu
éparpillés. En revenant au pays, vous vous lancez dans les affaires familiales, mais il paraît, d'après certaines langues, que la famille Moleka a beaucoup bénéficié des largesses du président Mobutu et même de la zaïanisation. Hein. Qu'est-ce que vous en dites?
Je vous dirais que mon père a commencé les affaires en 1951. C'était un commerçant. Il a beaucoup prospéré dans les transports, notamment dans l'exploitation des voitures américaines comme taxi. Par la suite, il a profité aussi du fait qu'il a été un très bon technicien, donc dans la réparation de radio, etc., plus tard de télévision. Il a prospéré comme ça et par la suite, ses affaires ont grandi à l'époque déjà de ce président Kassavubu. Il a notamment inondé la place de Kinshasa par des piles. Il y avait pénurie de piles et à partir de là, il a fait prospérer ses affaires. La famille n'a bénéficié d'aucune entreprise à la désalinisation. Mon père était contre la désalinisation. Il a dit qu'on ne peut pas manger le fruit de la sueur d'un autre. Lui, ce qu'il voulait, c'était son travail. Il a par contre été victime de la radicalisation, où ses affaires qui prospéraient étaient prises par l'État pour donner à d'autres pour gérer.
Vous avez géré plusieurs sociétés familiales. Pourquoi la plupart ont-elles fermé ?
Bien, vous savez, la situation ne prêtait pas. Par exemple, nous avons des entreprises dans le café. On avait deux entreprises, Burex et Socotrac. Et Burex œuvre dans l'Équateur et Socotrac à l'Est, à Beni et à Butembo. Socotrac, nous avons dû nous désengager assez tôt parce qu'il y a eu à l'époque la maladie du caféier, n'est-ce pas ? Donc, ça présageait un peu de
mauvaise
récolte, etc. Alors, pour ce qui concerne le Burex a été un moment victime de la chute du café. Vous savez que vers les années 86, 87, même 85 un peu, il y a une très grande chute du prix mondial du café. Alors, ça a un peu déstabilisé toutes les sociétés. D'ailleurs, à l'époque qui fonctionnait, il y avait des colons qui faisaient le café, qui était très fort, qui a aussi dû fermer. Il y a eu d'autres, l'ENRA, même Cibé, qui était le premier exportateur de café, qui n'a plus l'activité caféière comme il avait. Il l'a un peu, parce qu'il a plusieurs plantations. C'est très fort dans ce domaine-là. Mais disons que le mouvement qui faisait à l'époque ne répond plus aujourd'hui. Donc, c'est par ces choses-là. Alors, il y a d'autres sociétés par la radicalisation. Bon, lorsqu'on a rétrocédé, ce n'était plus ça. Donc, on a connu quand même pas mal de problèmes. Mais dans l'ensemble, quand vous regardez dans l'espace économique de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, bon, très peu de Congolais peuvent avoir encore aujourd'hui la chance d'émerger. Disons que le système économique est fait que l'étranger qui vient avec des crédits qu'il reçoit chez lui, il peut prospérer, tandis que le Congolais ici qui veut travailler honnêtement, j'entends, et qui n'a pas ce crédit-là, il lui est très difficile d'émerger, de faire quelque chose.
Como dice Mariposa, como mi alma, Acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Timothée Moleka Nzulama, vous êtes ancien ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, ancien gouverneur des provinces de Kinshasa et Bakongo, candidat président de la République aux élections de 2006. Votre carrière politique débute en 1987 où vous êtes élu député. Qu'est-ce qui vous a attiré en politique?
Et ce qui m'a attiré en politique, c'est le service de la communauté. Parce que, bon, disons que j'ai un background qui fait qu'à l'époque, quand j'étais encore aux études, quand j'étais très jeune, j'étais très, très sensible à ce qui se passait dans notre pays. Surtout quand il y avait des problèmes de guerre, des mercenaires, rébellions, sécessions, etc. Quand on en parlait à la télévision, à la radio en Belgique, avec disons que l'amplitude était multipliée par X, n'est-ce pas, ça me mettait mal à l'aise. Alors, je me disais toujours, un jour il faut que mon pays vive en paix. Un jour il faut que nous ayons effectivement une vision pour le pays, pour le peuple, qu'on vive bien. En fait, je voulais un jour entendre à la radio qu'au Congo tout est calme, au Congo tout est bien. Donc, ça, c'était déjà le départ, la réflexion, donc c'était ancré en moi. Alors, quand je suis venu, je me suis occupé des œuvres sociales, des œuvres de la jeunesse, et là, ça m'a fait encore plus découvrir le besoin, n'est-ce pas, de la population, surtout de la jeunesse, au développement.
En 1989, vous devenez gouverneur de la ville, province de Kinshasa.
Oui.
Puis de 89 à 90, vous êtes gouverneur de la province du Bas-Congo. La RDC, aujourd'hui, est-elle prête à aborder le futur processus de décentralisation, à votre avis?
Tout à fait. Tout à fait. La décentralisation, déjà à l'époque, était très bien lancée. Mais malheureusement, il y a eu quelques lourdeurs parce que, bon, le pouvoir central veut récupérer. Et si on ne fait pas attention, on risque encore de retomber dans la même chose. Mais aujourd'hui, les régions, les provinces sont prêtes à assumer.
Entre 2001 et 2003, vous travaillez comme ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Vous avez été président du Football Club Calamou de 80 à 90, de l'ASV Club en 92, et vous avez même dirigé la Fédération de Handball. À y regarder de près, hein, le ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs, on a l'impression qu'il ne s'occupe que de l'aspect sport et loisirs. Vous, vous étiez ministre. Qu'est-ce que vous avez fait de ce volet jeunesse, de ce ministère?
Bien, nous avons beaucoup développé le volet jeunesse parce que c'est un volet très, très important. C'est tout un ministère. En fait, il y a trois ministères dans le ministère de jeunesse, sport et loisirs. Et la jeunesse, ça prend une très grande part. Nous avons voulu poser comme base, et nous l'avons fait, nous avons institué ce que nous avons appelé Forum Jeunesse et Action. Un forum que nous avons organisé, que nous avons voulu faire toutes les années pour permettre, n'est-ce pas, aux associations de jeunes de pouvoir se développer pratiquement dans tous les domaines. Ça allait du domaine agricole jusqu'au domaine création d'emplois. Création d'emplois pour les jeunes, par les jeunes. On a donné aux jeunes le goût de pouvoir apprendre comment monter des projets, comment les rendre bancables, comment discuter pour obtenir du crédit afin de pouvoir mettre en œuvre les plans qu'ils ont eux-mêmes tracés. Donc on s'est vraiment occupé de cet aspect-là. Si nous avions pu encore continuer, nous avions un projet pour renforcer l'apprentissage de l'agriculture aux jeunes dans toutes les provinces. Vous savez que nous avons, au niveau de la formation des jeunes, dans l'agriculture notamment, nous avons à travers le pays plusieurs centres de formation agricole. Malheureusement, on ne s'en occupe plus. Alors, c'était l'occasion de pouvoir s'occuper de ça et faire d'autres centres pratiques, n'est-ce pas, dans la campagne, qui permettaient de récupérer tous ces jeunes désœuvrés, etc., etc., pour pouvoir relancer l'agriculture du pays à partir des jeunes.
En 2004, vous créez votre parti politique, Union du Peuple pour la Paix et la GAP, UPPA en sigle. En 2006, vous vous présentez comme candidat aux élections présidentielles. Vous n'obtiendrez d'ailleurs que 0,10% et étiez le dernier des candidats. Pensez-vous sincèrement réussir ou vous étiez simplement là à la solde d'un autre candidat, un gros poisson?
Non, je ne peux pas être à la solde d'un gros poisson. Je crois qu'il faut être sérieux. Quand je me suis présenté aux élections, en fait, il ne faut pas voir en Molekanzu Lama la personne. Il faut voir les idées de cette personne et des amis qui l'entouraient. nous avions voulu pour cette nation, pour ce pays, de grandes idées de développement. Et le parti UPPA en lui-même était une idée pour le développement. Union du peuple pour la paix et l'agapé. L'unité du peuple, ça je ne vais pas faire de commentaires. La paix pour le peuple, je n'en ferai pas non plus. Vous savez que nous avons vécu ces dernières années des guerres, uniquement des guerres, qui empêchaient le pays de poursuivre son développement, en tout cas de le commencer. Heureusement qu'on essaye de tenter de faire revenir la paix. Et l'agapé pour nous, c'était le partage, selon Dieu, de tout ce que la force du peuple, la force de la nation peut produire. Donc, inciter la nation à produire, inciter la nation au développement, inciter la nation à l'éducation pour pouvoir partager tout ce qu'on aura produit par l'éducation, par la production, partout.
Radio Fatine, grand témoin.
Timothée Molikanzulama, ancien ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, ancien gouverneur des provinces de Kinshasa et Bakongo, candidat président de la République aux élections de 2006, nous sommes pendant le mois de la femme. Intéressons-nous à ce rapport publié le mercredi 4 mars dernier à Paris par l'organisation humanitaire Médecins du Monde dans un rapport de l'enquête sur les violences sexuelles que subissent les filles des rues de Kinshasa. Cette ONG déplore la banalisation des viols et autres violences sexuelles dont les filles de rue sont victimes à Kinshasa et l'impunité des auteurs de ces actes. Noéla Luzito.
Dans son rapport, Médecins du Monde demande notamment la mise en place en RDC d'un certificat médico-légal reconnu juridiquement servant de preuve pour poursuivre les agresseurs de ces filles de la rue, communément appelés à Kinshasa Chege. Les agresseurs de ces filles sont en premier lieu d'autres enfants de la rue, puis des hommes en uniforme ou encore des membres des gangs de quartier. Médecins du Monde précise que l'enquête a été menée par une psychologue en 2008, d'abord auprès de 67 filles, ensuite auprès de 200 filles et de 200 garçons. 70% d'entre elles ont subi un baptême, un rite violent d'entrer dans la rue. Elles sont généralement dépouillées de leurs affaires personnelles et victimes de viols collectifs avec prise forcée de drogue et passage à tabac. Elles subissent souvent également brûlures, lacérations ou rasage de cheveux, précise le document. Et pour survivre dans la rue, l'enquête dit que 9 filles sur 10 vivent de la prostitution depuis l'âge de 12 ans en moyenne. Elles se prostituent la nuit avec en moyenne 6 clients par jour. Les violences sexuelles sont ainsi devenues leur lot plusieurs fois par semaine, voire tous les jours pour certaines. Mais la plupart de ces filles ont reconnu avoir eu leur premier rapport sexuel avant même de vivre dans la rue et pour plus de 4 filles sur 10, il s'agissait d'un viol. 7 filles sur 10 ont également déclaré avoir été victimes de viols, des viols collectifs en grande majorité, selon l'enquête.
Merci Noéla Luzito. Réaction Timothée Molika, vous qui êtes aussi un encadreur de la jeunesse avec l'ONG Pax Agapeo.
J'ai suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse, la lecture de ce rapport, en tout cas d'une partie de ce rapport. Et je crois que personne, aucun politicien, aucun même parent ne peut être fier de ce rapport. Vous savez, la jeunesse, on ne le dira pas suffisamment, la jeunesse c'est le futur d'une nation. Alors dans une nation très jeune où même des jeunes de 25-30 ans prennent des postes importants, on peut se poser des questions. Vous savez, l'homme politique congolais doit prendre conscience de ces choses, doit prendre des résolutions contraignantes sur ces choses-là. On doit donner du travail, on doit donner des occupations à la jeunesse, à la jeune fille, aux jeunes garçons. Toute politique, vous pouvez avoir 5 chantiers, 10 chantiers, 20 chantiers, mais si un des chantiers ne concerne pas prioritairement la jeunesse, les habitudes de la jeunesse, les pensées, les gestes, les actes de la jeunesse, et en fait, quelquefois, cette jeunesse est dépravée par les vieux, par les adultes. Quand on dit que la violence sexuelle qui est faite aux jeunes filles par des militaires, par des policiers, par des enfants de la rue, des civils, mais la plupart du temps sont les civils adultes qui commandent les autres. Donc ce sont les adultes qui sont occupés à hypothéquer toute une nation. Je crois que c'est une prise de conscience collective qui doit nous préoccuper. Aujourd'hui, j'ai vu qu'on demande des conditions, il faut que la jeune fille puisse se prouver, puis pour poursuivre, etc. Donc, elle qui subit les conséquences, On lui demande encore l'effort, mais c'est à l'adulte de faire l'effort. C'est à l'adulte de prendre en charge cet enfant. Vous voyez, à 12 ans, quelquefois à 7 ans, elle est déjà victime d'un viol. Des fois même en famille, avec des groupes, je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Le Congo a suffisamment avancé. Ça va faire 50 ans que nous sommes indépendants.
Timothée Moleka Nzulama n'est pas que politicien, mais aussi homme d'église, précisément apôtre de Jésus-Christ dans les églises de réveil. La politique et la religion sont-elles compatibles?
Tout à fait, tout à fait. Ici, je parle de la vraie politique.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que la politique, c'est l'art de gérer les hommes. C'est l'art de gérer la cité. Le tout premier qui a donné un rôle politique à l'homme, c'est Dieu. Il lui a donné le jardin avec tout ce qui habitait, avec tout ce qui poussait, avec lui-même, puisqu'il a dit « procréer et remplissez la terre ». Donc ça veut dire qu'il a donné à l'homme la gestion de tout.
Nous avons clôturé cette émission par ce témoignage de quelqu'un qui vous connaît, que nous avons joint au téléphone pour vous. Veuillez nous excuser, la qualité de la ligne n'était pas très bonne.
Je réponds au nom de Justin. Par rapport à M. Moleka Nzulama, je suis vice-président national en charge de l'organisation du parti qu'il a créé il y a déjà quelques temps, dénommé UPPA, Union du Peuple pour la Paix et la Paix. Je travaille à ses côtés depuis 5 ans, c'est-à-dire déjà à la veille de la création de son parti, l'UPPA. Ce que je retiens de sa personnalité, c'est un monsieur social, c'est un monsieur bon, un monsieur intelligent, surtout intelligent, c'est pas ce qui m'a plus attiré chez lui. Et au sein du parti, par exemple, parce que nous ne travaillons que dans ces cadres-là, même si j'ai fait ma contradiction, et la vraie démocratie, j'ai pu au sein du parti. Bon, ce que je reproche à M. Moleka, c'est surtout la confiance totale qu'il a en lui, et qui le plonge de fois dans une sorte d'immobilisme inconscient. Et c'est encore une raison de plus pour que je sois à ses côtés pour le pousser, afin qu'il sorte de cette confiance de soi pour avoir réalisé des élections autrefois. Il était l'homme le plus épuisé de Kinshasa. Et ça semble un peu le plonger dans une sorte d'immobilisme. Il ne travaille pas assez, croyant qu'il peut réditer un tel exploit sans travail. Alors, voilà un peu ce que je veux dire. Un petit message à son égard, c'est qu'il comprenne qu'il est un véritable leader, qu'il a une très bonne vision de la République. Alors il faut qu'il comprenne vraiment que la vie est des hauts, des bas. Et d'ailleurs, la meilleure expérience, c'est l'ensemble des échecs qu'on a connus. Donc, que les mensonges que nous avons connus ensemble au sein de l'UPPA par rapport aux élections ne puissent pas nous arrêter ou arrêter la machine de l'UPPA, mais que nous soyons toujours soudés, la main dans la main, nous allions de l'avant pour affronter les différences à venir.
Timothée Moleka, je vous ai vu très attentif, très pensif, avec un sourire, avec un plaisir visible là, sur votre visage. Réaction.
Oui, d'abord, s'il faut répondre directement à Augustin que je salue, d'abord, l'UPPA, ce n'est pas seulement mon parti, c'est l'autre parti. Qui se souviennent bien que nous l'avons monté ensemble, moment par moment. Donc, c'est une affaire de nous tous qui avons été là dès le début. Bon, pour le reste, je prends acte de tout ce qu'il a dit. Je vais tenter de me corriger. Vous savez, c'est très bien d'avoir des collaborateurs comme ça qui sont ouverts, qui peuvent te dire tout ce qu'il leur passe par la tête dans leurs analyses, parce que ça vous permet aussi de rectifier le tir, n'est-ce pas? Là où, quelquefois, je peux penser ça, c'est un raisonnement par l'expérience, c'est un raisonnement peut-être spirituel, quelquefois. Il faut aussi avoir la vie des autres, l'analyse des autres pour aller de l'avant.
Pour clôturer cette émission, j'allais dire ce message, cette émission, Timothée Moleka Nzulama, un message à tous les Congolais qui vous suivent, aux femmes particulièrement, parce que c'est leur mois.
À toutes les mamans du Congo, je vous souhaite un bon mois de la maman. Vous devez savoir que la maman a une part prépondérante dans le développement de ce pays. La maman peut faire chuter ce pays, la maman peut relever ce pays. Pour ce qui me concerne, dans ce que je conseille souvent dans le programme de développement, il y a une part très importante à l'agriculture et je sais qu'aujourd'hui, dans la production agricole, c'est surtout les mamans qui vont au champ. C'est surtout les mamans qui puisent l'eau. Mais nous avons un devoir de faciliter aussi la tâche aux mamans. Je vous souhaite vraiment bonne fête et que le Seigneur vous bénisse.
Timothée Molekanzulama, merci d'être passé à Grand Témoin.
Merci.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais Timothée Molekanzulama, ancien ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, ancien gouverneur des provinces de Kinshasa et Bas-Congo, candidat président de la République aux élections de 2006, à la technique Jean-Claude Nsiala, à la présentation Alain Hirung. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Okapi, www.radiokapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci de nous suivre à Kisantu, Inkissi, dans la province du Bas-Congo et partout dans le monde.